Hello, hello, je suis Chloé. Si ma voix ou ma bouille ne te dit rien, je suis une fille qui adore travailler en pilou-pilou et avec un chignon, comment dire, un peu, beaucoup approximatif. Je déteste vraiment prospecter et c'est pourquoi j'ai développé des techniques pour avoir des clients à gogo sans prospecter, tu t'en doutes. Et c'est ce que je veux te partager aujourd'hui. J'ai également envie de te montrer que oui, c'est possible de dompter l'algorithme d'Instagram, de ne pas passer 15 plombes à rédiger des posts et surtout, surtout, de te faire plaisir dans ta communication. Alors, je n'ai plus qu'une chose à te dire, installe-toi confortablement, mets tes écouteurs, mets-toi sous un plaid et c'est parti pour une petite dose de bonne humeur, de partage et d'astuces. Hello, hello, on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier aujourd'hui. Pour tout te raconter, pour que tu puisses tout comprendre, il y a quelques semaines de ça, sur mon compte Instagram, j'ai fait une story en disant que dans mon podcast, j'avais envie d'auditer des comptes Instagram. Alors du coup, j'ai demandé en story qui aimerait que j'audite son compte. Tu t'en doutes, j'ai reçu de nombreuses personnes qui m'ont dit « oui, moi j'aimerais », j'ai reçu vraiment beaucoup de retours. Donc j'ai pris le temps de sélectionner. Je ne pouvais pas analyser les comptes qui étaient en privé ou des comptes où il n'y avait qu'un seul post. Donc voilà, j'ai pris du temps pour sélectionner plusieurs comptes. J'ai sélectionné du coup des comptes qui étaient, on va dire, pertinents pour moi parce qu'il y avait des choses à changer, il y avait des grosses marges de progression et aussi des erreurs un petit peu communes que peut-être toi tu fais et du coup qui pourra t'aider aussi à aller de l'avant. Donc aujourd'hui, comme tu l'auras compris, c'est pas du tout un débat sur un sujet où je t'apprends pas quelque chose sur Instagram. Quoique, indirectement, si, parce que du coup, on va vraiment parler audit de compte. Et du coup, peut-être que tu pourras aussi traiter ces points-là sur ton compte à toi pour voir si tu fais ces erreurs ou en tout cas, tu sauras comment les améliorer. Ce podcast, il sera peut-être un peu plus court que les autres, mais ne t'inquiète pas. Très prochainement, on revient pour un épisode normal pour parler d'un sujet. Juste, j'ai une petite requête avant de commencer cet audit. Si tu aimes ce support, ce nouveau format avec un audit de compte, n'hésite pas du coup à me faire un petit retour. Donc n'hésite pas à aller sur mon profil Instagram, citronnelle-du-bas. Communication, de m'envoyer un petit message pour me dire que toi aussi, tu aimerais que j'audite ton compte. Comme ça, tu pourras savoir un petit peu plus qu'est-ce qui fonctionne sur ton compte, pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu fais de moins que les autres, qu'est-ce que les autres font de plus que toi. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet et du coup de commencer l'audit, je voulais vraiment préciser quelque chose. Déjà, premièrement, cette personne n'est pas payée pour que je fasse son audit et moi, je ne suis pas payée pour réaliser cet audit. Cette personne-là n'est pas au courant. J'ai un peu l'impression de faire un rendez-vous en terre inconnue avec les yeux bandés. Blague à part, non, cette personne n'est pas au courant que j'audite son compte. Du coup, elle va le découvrir en écoutant cet épisode de podcast, mais aujourd'hui, elle n'est pas du tout au courant. Vu qu'elle n'est pas au courant, je n'ai pas du tout accès à son compte Instagram, je n'ai pas son mot de passe, je ne suis pas allée voir dans les paramètres qu'est-ce qui avait été coché, etc. Et je ne lui ai pas posé de questions sur quelles sont ses activités, quelles sont les actions qu'elle mène, etc. Donc, je ne peux pas faire un compte-rendu détaillé, un audit complet. Le but, c'était simplement de te faire un compte-rendu de ce que moi, je peux voir visuellement. Et du coup, ce que moi, je vois visuellement, toutes les personnes qui vont se rendre sur ce compte verront la même chose. Je vais te dévoiler du coup le compte que j'audite. Aujourd'hui, c'est le compte d'Anaïs Pilfer. Alors, j'espère que je prononce bien son nom de famille. Si c'est pas le cas, je m'en excuse. Et tu pourras retrouver son compte Instagram en tapant vie, V-I-S, tiré du bas, en, tiré du bas, couleur, au pluriel. Tu retrouveras son compte en légende. Je t'invite vraiment à ouvrir Instagram en même temps que tu m'écoutes, à aller voir son compte. Comme ça, tu pourras vraiment voir ce que je te donne comme amélioration, comme correction, quels sont les points que je liste, etc. Enfin voilà, pour que ce soit beaucoup plus concret. Alors, si tu as ouvert le compte Instagram, que tu es bien installé sous un plaid, bah on y va, c'est parti pour l'audit. Je vais essayer vraiment de le faire dans l'ordre et de lister tous les petits points à améliorer pour vraiment ne rien oublier. Donc, on arrive sur le compte. Tout de suite, la première chose qu'on voit forcément, c'est la photo de profil. La photo de profil, elle est très bien. On la voit, c'est en très gros plan. Elle est souriante, donc moi, je la garderai, cette photo, je ne change pas. Ensuite, il y a son prénom et son nom. Ça, c'est très bien. Par contre, la seule chose, c'est que derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas le mot décoration d'intérieur, parce que donc elle est décoratrice d'intérieur. Il n'y a pas un mot-clé qui ferait que on puisse facilement la retrouver grâce à la barre de recherche d'Instagram. La barre de recherche d'Instagram, c'est un petit peu comme Google, et du coup, il faut mettre des mots-clés dedans pour qu'on te retrouve. Donc moi, c'est vrai que je conseille généralement de mettre son domaine d'activité, parce que bah, quand les gens vont chercher... Là, dans cet exemple concret, une décoratrice intérieure, ils vont taper le mot décoratrice intérieure ou décoration d'intérieur, mais voilà, ils vont taper ces mots-là et ils vont pas savoir qu'il y a une fameuse Anaïs qui fait ça. Donc, ça va faciliter la recherche et ça va faciliter du coup l'accès à ce compte. Donc voilà, donc bien venir compléter ce nom et ce prénom. Ensuite, on continue l'analyse de ce compte et il y a la biographie. Là, aujourd'hui, la biographie, elle est complète, il y a des choses qui sont marquées, mais par contre, pour moi, on peut la retravailler, on peut venir l'améliorer pour qu'elle soit beaucoup plus impactante, pour qu'elle se démarque aussi beaucoup plus. Parce que, à travers cette biographie, ok, Anaïs, elle est décoratrice intérieure. Mais ça, il y en a plein. Donc, on voit pas, on comprend pas réellement la plus-value d'Anaïs. C'est marqué qu'elle est entrepreneur, ouais. Ok, mais qu'est-ce que ça nous apporte comme information derrière? Bah pas grand-chose. Et par contre, ça vient grignoter des caractères, ces fameux caractères qui sont juste horribles parce que on a tellement de choses à raconter, on a tellement de choses à montrer, on a envie de dire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on aime, en quoi on aide les gens, etc. Bref, on a beaucoup de choses à dire. Donc, il ne faut pas venir, entre guillemets, gaspiller des caractères inutilement. Donc, on enlève toutes les informations qui ne sont pas forcément essentielles et on vient vraiment trouver une phrase ou une liste, mais avec des mots hyper impactants et surtout qui fait qu'on se démarque de la concurrence. En dernière phrase, dans cette biographie, c'est marqué « Vous avez besoin d'aide pour des futurs projets, contactez-moi ». Déjà, première remarque, contactez-moi, ok, mais comment ? On t'envoie un message sur Insta, on t'envoie un mail, on va sur ton site, on ne sait pas comment te contacter. Et après, deuxième remarque, pour moi, ce n'est pas forcément le truc le plus utile à mettre dans une biographie parce que au moment où les gens lisent cette phrase, ça veut dire qu'ils sont juste en train de découvrir le compte Instagram. Ils n'en sont pas encore au stade de « Ok, j'ai confiance en cette personne-là, je vais la contacter ». Non, ils en sont encore à la découverte, à la phase de « J'apprends à découvrir cette personne ». Qu'est-ce qu'elle fait? Et là, à ce moment-là précis, il faut juste donner envie aux personnes d'appuyer sur ce fameux bouton « s'abonner ». C'est tout. Et après, on a envie que les gens aillent regarder la suite du profil, qu'ils aillent regarder tous les posts, qu'ils aillent lire, qu'ils aillent fouiller. Mais on a envie, du coup, qu'ils passent du temps sur notre profil. Donc, pour le moment, ils n'en sont pas du tout au stade de « je contacte ». Ils sont vraiment dans une phase de « j'ai envie d'en savoir plus sur Anaïs ». J'ai envie de découvrir ce qu'elle fait. Donc, modifier cette phrase ou l'enlever carrément. Ensuite, il n'y a pas de lien. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, Anaïs n'a pas de site internet. Mais si par contre c'est le cas, c'est vraiment l'endroit idéal pour le mettre. Il faut mettre un lien vers le site internet, vers ta newsletter, vers ton freebie, vers plein de choses. Mais il faut mettre ce lien. Ça peut être aussi vers, par exemple, un calendrier. Si aujourd'hui, tu n'as pas de site internet, ça peut simplement être un lien Calendly qui, du coup, permet de réserver des appels découvertes. Ensuite, je continue la descente du profil et je passe à la partie Story à la une. Story à la une, c'est les petites bulles, du coup, qu'on retrouve avant les posts, avant la partie feed. Ces Story à la une, si tu ne sais pas ce que c'est, ce sont du coup des visuels qui sont vraiment au format story, mais contrairement au format story, elles ne sont pas visibles que 24 heures. Elles restent permanente. Donc là, on peut venir vraiment accrocher ce qu'on veut, et là-dessus, il faut être assez stratégique. Et là, pour le coup, je pense que première chose, il y a beaucoup trop de stories à la une. Donc il faudrait faire un tri pour que ce soit plus clair et pour que du coup, il n'y ait que les informations vraiment importantes à retenir. Parce que là, du coup, on se perd un petit peu, il y en a trop. Ça fait beaucoup trop d'informations à regarder tout de suite quand on arrive sur le compte. Ensuite, il y a des mots, il y a des titres à ces stories qui ont été mis. Ces titres-là, ils sont coupés. Donc, quand c'est un mot, par exemple, réalisation, et que ça coupe à réalisat, on se doute que c'est réalisation. Mais quand c'est coupé, parce que c'est plein de mots, du coup, on ne sait pas ce que la personne voulait dire. Donc, vraiment essayer de diminuer les mots pour qu'ils soient le moins coupés possible. Encore une fois, Instagram est assez radin là-dessus et on a à chaque fois très peu de caractères. Mais il faut vraiment essayer de travailler là-dessus pour que ce soit hyper lisible et compréhensible pour la personne qui arrive sur le compte. Ensuite, quand j'ouvre les stories, ça manque du coup de travail à l'intérieur. Parce que du coup, par exemple, dans la story à propos, on s'attend à en savoir beaucoup plus sur Anaïs et là, moi, je reste sur ma fin parce que j'en apprends pas plus et ça renvoie vers d'autres posts. Il faut bien se dire que la story, alors il y a un endroit où on peut renvoyer sur un post parce que c'est hyper précis, etc. Mais sinon, il ne faut pas que ce soit que uniquement du partage de posts. Il faut vraiment que ce soit des visuels qui ont été créés juste pour faire partie des stories à la une et rien d'autre. Et que ce soit vraiment des visuels travaillés qui reprennent l'identité visuelle de la personne, qui reprennent l'idée, l'univers, le design du compte pour pas qu'on soit déstabilisé. Et vraiment, voilà, c'est un travail. On sait les stories que c'est très rapide, il faut que ce soit quelque chose de très rapide à lire, mais il faut pas que ça renvoie vers d'autres choses. Il faut vraiment que là, la personne, elle se laisse guider et que ça défile tout seul toutes les informations importantes. Donc là, pour moi, il faut vraiment revenir tout travailler pour vraiment recréer, faire un tri déjà dans les informations pour savoir qu'est-ce qu'Anaïs veut vraiment partager en story à la une, qu'est-ce qu'elle veut mettre et revenir créer des visuels dédiés. Ensuite, ce que moi j'appelle les highlights, donc les petites bulles rondes où il y a un petit visuel dedans, il y a écrit quelque chose, mais c'est clairement écrit beaucoup trop petit. Du coup, on n'arrive pas du tout à lire. Donc là, il faut vraiment privilégier la lisibilité et ne pas inscrire de mots. Ou alors, il faut que ce soit ultra lisible. Mais moi, c'est vrai que je décommande de mettre des mots parce que c'est beaucoup trop petit. Et du coup, on n'arrive absolument pas à lire. Donc voilà, aller sur des illustrations, aller sur des rondes couleurs, aller sur quelque chose qui soit très, très lisible pour pas qu'il y ait d'interprétation ou pas de « bah tiens, qu'est-ce que c'est ? J'arrive pas à comprendre. » Parce que clairement, quand la personne n'arrive pas à comprendre, elle ne cherche pas à comprendre, elle part. Toutes les remarques de structure, etc., ça s'applique vraiment, moi, là, pour toutes les stories à la une. Donc, je pense que là, il y a un travail de refonte totale pour vraiment amener quelque chose au point de vue visuel qui soit ultra canon, où on ait envie de tout parcourir et qui soit hyper cohérent avec le feed. Ensuite, bah du coup, ma transition, elle est parfaite. Je passe à la partie feed. Là, c'est vraiment une vision d'ensemble. Je ne clique pas sur un post en particulier. Moi, ce qui ressort là, c'est ça manque d'un fil conducteur. Ça manque d'homogénéité. C'est un petit peu fouillis. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que il y en a un petit peu de partout et du coup, bah notre regard, il est attiré par rien et en même temps par tout à la fois. On ne sait pas trop où donner de la tête, on ne sait pas sur quoi cliquer. En fait, il y a un peu trop d'informations qui arrivent à mon cerveau. Alors, c'est peut-être que mon cerveau est trop petit, je ne sais pas, mais voilà, ça me fait beaucoup de choses à gérer. Ça fait trop de couleurs différentes, trop d'informations. Donc là, il faut vraiment essayer de simplifier, d'avoir plus d'homogénéité, d'avoir vraiment un fil conducteur entre les différents postes et surtout que ce soit beaucoup plus clair, que ce soit plus élégant, que ce soit épuré et que ce soit un peu plus raffiné, plus dynamique pour que vraiment on comprenne l'identité visuelle d'Anaïs. Et après, si je parcours un petit peu son feed, que je descends, on voit du coup qu'Anaïs a très régulièrement changé de feed. Du coup, c'est pareil, c'est encore quelque chose de très déstabilisant parce que du coup, ça change régulièrement, donc ça casse encore ce fil conducteur. Donc peut-être que c'est parce que Anaïs n'a pas encore eu le coup de cœur pour un feed, mais peut-être que ça va arriver. Donc voilà, donc vraiment essayer de retravailler ça pour qu'il y ait vraiment des modèles de postes qu'on arrive à retrouver, qu'il y ait une unité et que tout de suite, en fait, quand on tombe sur un poste d'Anaïs, qu'on se dise ok, c'est sûr, c'est Anaïs, il n'y a pas de doute possible, c'est elle, je la reconnais. Et là, aujourd'hui, je ne peux pas dire ça parce que ça manque de fil conducteur entre d'un poste à un autre. Donc, revoir un petit peu pour vraiment que on puisse vraiment très clairement voir l'identité visuelle d'Anaïs à travers ces différents postes. Ensuite, je viens cliquer sur un poste en particulier. La première chose pour moi qui me pose problème, c'est le format du poste. J'ai des formats très variables d'un poste à un autre. Parfois, je retrouve le format carré d'Instagram, donc du 1080 pixels par 1080 pixels. Et parfois, je retrouve plus des formats, on va dire, paysages. Des formats beaucoup plus petits en hauteur et qui prennent toujours la même largeur. Honnêtement, je vous incite, mais plus que tout, à faire des visuels encore plus grands que 1080, parce que ça, c'était le format utilisé il y a quelques années sur Instagram. Et là, ils proposent maintenant des formats beaucoup plus grands, des formats avec une hauteur de 1350 pixels par 1080. Et vraiment, va sur ce format-là. Alors pourquoi? Je vais t'expliquer tout de suite et tu vas voir, ça va être ultra canon. Déjà, première chose, tu auras plus de place sur ton visuel. Tu auras plus de hauteur. Donc ça veut dire du contenu beaucoup plus aéré. Mais ça, à la limite, c'est pas l'argument choc. Par contre, là où c'est très important, c'est que quand tu as un poste petit, une photo, avec un format du coup pas très haut, tu peux faire le test du coup en allant sur le profil d'Anaïs et en prenant ce genre de photo. Et tu verras que automatiquement tu vas avoir un autre poste au-dessus et un autre poste en dessous. Qu'est-ce qui va se passer du coup quand les personnes vont avoir ça sur leur fil d'actualité? Ça veut dire que l'œil se balade et qu'il a beaucoup de distractions. Et donc du coup, le poste d'avant, il l'a déjà vu, donc il ne va pas revenir là-dessus. Mais par contre, son œil va être attiré par ce qu'il va voir en dessous. Et il suffit en plus qu'il y ait un poste beaucoup plus impactant. Et du coup, hop, oh bah tiens, oh il y a un mot qui attire mon attention. Et hop, on le sait. Que sur Instagram, en un coup de pouce, on peut passer au poste suivant. En un coup de pouce, on peut passer de toi à ton concurrent. Donc il faut vraiment arrêter le scroll. Et pour ça, il faut du coup enlever toutes les distractions possibles pour que les personnes aient envie de passer du temps sur ton profil, sur toi, ton poste. Et pour ça, eh ben, plus on va faire un poste grand, moins il y aura de distractions parce qu'on va prendre un maximum de place sur cet écran. Même si les écrans de téléphone sont de plus en plus grands, on va quand même prendre un maximum de place. Et du coup, il y aura très peu de texte au-dessus et très peu de visuel en dessous. Du coup, l'œil de ton lecteur, de ton follower, de ton prospect, il ne sera pas attiré par d'autres choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire des visuels très grands. Comme ça, eh ben, tu as plus de chances d'arrêter le scroll. Alors attention, ton poste, il sera toujours au format carré sur ton feed, hein. Ça ne change pas, mais c'est vraiment sur le fil d'actualité où là, ça va venir s'afficher en grand. Donc exploite ce format-là, 1350 pixels par 1080. Bon, ça c'était mon premier retour par rapport à la taille. Ensuite, je vois que Anaïs a géolocalisé certains de ses posts. Alors je l'encourage vraiment à le faire systématiquement parce qu'il y a des personnes qui peuvent arriver sur ton poste parce que c'est tagué sur une certaine ville, un certain coin, une certaine région, un certain département. Alors, ça peut ramener quelques vues, c'est peut-être pas forcément énorme, mais c'est toujours bon à prendre. Ensuite, de manière générale, les posts, ils sont assez courts. Du coup, ça manque cruellement de contenu, ça manque de valeur. On reste trop à la surface et il faut vraiment aller en profondeur. Donc, il faut amener plus de valeur pour que ce soit vraiment intéressant, qu'on montre vraiment l'expertise et que les personnes ne restent pas sur leur faim, qu'elles ne se disent pas à la fin du poste « Ouais, ok, mais là, j'en sais pas plus. Je m'attendais à plus ou je m'attendais à autre chose. » Parce que du coup, cette personne-là, elle va être frustrée, elle ne va pas forcément comprendre toute ton expertise et du coup, elle va aller ailleurs. Ensuite, bien finir tous les posts par des call to action pour vraiment inciter le lecteur à passer à l'action. Mais du coup, pour le coup, là, il n'y en a pas systématiquement, il y en a très peu, et du coup, ça limite considérablement les interactions entre l'internaute et Anaïs. C'est dommage. Et enfin, ce qui arrive vraiment à la fin des posts, ce sont les hashtags. Là, il n'y en a pas assez. Je pense qu'il n'y a pas de réelle stratégie qui a été mise en place, et que du coup, ils ont été un peu choisis au pif. Et c'est dommage parce qu'ils ne sont pas pertinents, ils sont beaucoup trop généralistes. Donc voilà, il y a vraiment un travail là de stratégie de hashtag à mettre en place. Et après, pour moi, il y a aussi autre chose. Quand je regarde le profil d'Anaïs, je vois qu'il y a énormément de palettes de couleurs et qu'il n'y a pas forcément d'autres contenus. Donc il faut vraiment aller exploiter plein de contenus différents pour vraiment venir répondre à toutes les interrogations du lecteur, du prospect et on espère du client. Donc voilà, donc il faut aller plus loin encore dans du contenu. C'est pas simplement quand on est décorateur d'intérieur, on partage des palettes de couleurs. Donc si je devais faire maintenant un plan d'action pour Anaïs, première étape pour moi, ça serait vraiment de retravailler le feed pour qu'il soit harmonieux, pour qu'il soit pétillant, pour qu'il soit percutant, pour que vraiment il soit mémorable et que l'identité visuelle ressorte facilement. Qu'on arrive vraiment à voir les valeurs, la personnalité et l'expertise d'Anaïs à travers son feed. Ensuite, pour moi, le deuxième point, ça serait de retravailler sa biographie pour qu'elle se démarque enfin des autres décorateurs d'intérieur, qu'elle soit beaucoup plus impactante et du coup qu'elle donne envie de découvrir le reste du profil. Et bien sûr, moi, je rajouterai un lien vers le site internet ou s'il n'y a pas de site, tout simplement un lien Calendly pour réserver un rendez-vous téléphonique. Ensuite, je prendrai plus de temps pour rédiger les posts pour qu'ils soient beaucoup plus longs, qu'il y ait surtout beaucoup plus de valeur dedans, qu'il y ait un call to action à la fin. Et je ferai en sorte d'avoir une vraie stratégie de hashtag pour que ce soit utile et pas juste pour décorer le post. Enfin, dernier point, je finirai par retravailler les stories à la une pour qu'elles soient claires et que ce soit un vrai ajout de valeur, que ce soit pas simplement du repartage de post. Je ferai aussi du tri pour qu'il y ait moins de stories à la une et je viendrai vraiment retravailler le design des stories à la une et des highlights pour que ce soit très visible. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais te dire concernant le profil d'Anaïs. J'espère que du coup, tu as pu suivre en même temps mes remarques et que tu as pu ouvrir du coup le compte d'Anaïs et que tu as pu voir du coup qu'est-ce que je pointais du doigt, qu'est-ce qui était positif, qu'est-ce qui était négatif et j'espère que du coup, ça te sera utile pour toi, pour ton propre poste. Je me répète encore une fois, je ne peux pas parler de statistiques, d'engagement, etc. parce que je n'ai pas accès au compte d'Anaïs. Donc je me base uniquement sur ce que je peux voir. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, il y a du travail pour améliorer ce profil et pour pouvoir atteindre des sommets grâce à son compte Instagram, parce que oui, c'est possible. Si tu as aimé ce format d'épisode, de podcast, n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour me dire, pour me faire un retour, pour me dire aussi si tu as envie que j'audite ton compte. J'ai envie de remercier Anaïs, qui ne le sait pas encore au moment où j'enregistre, mais du coup qui a découvert l'audit de son compte. J'espère vraiment, Anaïs, que ces retours t'aideront à améliorer tout ça. Et maintenant, j'ai envie de dire rendez-vous sur vos comptes Instagram pour les booster, pour les pimper, parce que oui, on peut trouver des clients grâce à Instagram, mais pour ça, il faut vraiment avoir un compte qui se différencie des autres, qu'on retrouve votre personnalité, vos valeurs et votre expertise. À très vite pour un nouvel épisode de podcast.